Vous avez peut-être reconnu cette musique, il s'agit de la bande originale de Mon oncle d'Amérique, le film d'Alain Resnais. Il y avait entre autres au générique de ce film le professeur Henri Laborie. J'ai appelé le professeur Laborie et il m'avait dit au téléphone « Je ne parlerai pas de la guerre du Golfe ». En fait, vous allez l'entendre, il en parlera. Et moi je suis allée le voir parce que je venais de lire l'un de ses livres, « La colombe assassinée » qui date de 1987 et que je n'avais pas oublié non plus l'éloge de la fuite. Je voulais le rencontrer sur son lieu de travail et je voulais qu'en tant que biologiste travaillant sur le comportement, il m'explique le pourquoi de la violence. Professeur Laborie, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Je suis venue vous voir chez vous, dans votre antre, comme vous dites, dans votre laboratoire d'anthologie. Et je suis ravie de venir parce que je n'imaginais pas qu'un chercheur se retrouvait comme ça, dans le fin fond d'un hôpital, avec des escaliers difficiles à monter. Et malgré tout, je crois que le laboratoire est assez important, assez étendu.
Oui, ben vous pouvez le visiter, c'est pareil. Mais vous êtes chez vous aussi.
Oui.
Il ne correspond pas, si vous voulez, aux structures architecturales que je désire, parce que j'ai aussi eu mes idées sur l'architecture d'un centre de recherche. Mais enfin, on s'en contente. Alors, il y a une partie qui est biochimique et puis l'autre qui est physiologique. Mais on passe de l'une à l'autre, puisqu'on ne fait jamais un travail isolé. On ne fait jamais un pur travail de biochimie ou un pur travail de physiologie. Tout ça, ça se combine.
Qu'est-ce qu'on recherche?
Il passe là sans arrêt.
Oui. Qu'est-ce qu'on recherche dans ce laboratoire? Qu'est-ce que ça veut dire, l'entomologie?
C'est œtonologie.
Œtonologie.
Oh, c'est une longue histoire, le terme d'œtonologie, d'ailleurs. Mais enfin, bon, ça perdrait du temps d'en parler. Ce qu'on fait, c'est... On cherche à comprendre ce que sont les mécanismes du vivant. Mmh. Alors, en particulier, ce qui fait fonctionner un cerveau et un cerveau humain. Alors, on commence au niveau de la molécule et on se termine au niveau des comportements et comportements sociaux. Mmh. Alors, c'est tout un ensemble, mais souvent... Alors, quand on a compris un mécanisme du vivant, en général, il faut que l'hypothèse de travail sur laquelle on s'engage soit valable en tant qu'hypothèse à plusieurs, ce que j'appelle, niveaux d'organisation, qu'elle soit valable sur le plan biochimique, sur le plan des organes isolés, si vous voulez, de l'électrogénèse cérébrale, des comportements, etc. À ce moment-là, on essaie de démontrer le mécanisme qu'on a imaginé.
Oui.
Et quand on l'a cru le comprendre, on imagine une molécule pouvant agir sur ces mécanismes. Et une molécule qui, en général, est originale. Alors, on prend des brevets, et ce n'est pas la thérapeutique qui m'intéresse. Je le dis très bien franchement, je ne suis pas un bienfaiteur de l'humanité, ça ne m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est la pharmacologie m'intéresse en tant qu'outil de recherche, parce que quand vous avez cru comprendre un mécanisme du vivant,
oui.
Si vous imaginez une molécule qui agit comme vous attendiez qu'elle agisse, ça montre que votre mécanisme n'est pas complètement farfelu, que ce n'est pas simplement du roman. S'il n'agit pas, ça vous amène à réfléchir sur pourquoi il n'agit pas, donc à trouver autre chose. Et finalement, c'est plus un outil, la pharmacologie, pour nous, qu'un moyen un moyen thérapeutique. Mais comme nous vivons quand même dans une société de marchands, et que cet intérêt que nous avons à nous comprendre, comprendre comment fonctionne le cerveau de nos contemporains, ça n'intéresse pas tellement de gens, en dehors du blablabla qu'on peut en faire. Alors on prend des brevets et on donne ces molécules à exploiter dans l'industrie pharmaceutique qui, à ce moment-là, nous verse ce qu'on appelle des royalties, des droits d'auteur,
qui permettent aux
laboratoires de travailler, c'est tout.
Alors, c'est sûrement une question très, très naïve, mais je suis venue vous voir, après avoir lu la colombe assassinée, pour que vous m'expliquiez un petit peu comment ça marche, la violence, l'agressivité.
Comment ça marche? Vous avez vu qu'on ne peut pas aborder ce problème à un seul niveau d'organisation. Il y a l'agressivité, ça se découvre au niveau biochimique, au niveau du système nerveux central. C'est avec un système nerveux qu'un animal et l'homme agissent sur son environnement et sur ses contemporains.
Alors nous avons tendance, incultes, nous avons tendance à penser que la violence c'est quelque chose de complètement inné, que l'homme est naturellement agressif.
Il y a une chose simple à dire. Comment voulez-vous qu'on ait fait des chiens domestiques à partir du loup si dans toute espèce animale il y avait une violence innée? Il suffit d'être gentil avec un animal pour qu'il ne soit pas violent, qu'il ne soit pas agressif. Il n'y aurait pas eu de bœufs, de bovins à partir des grands buffles là. Si à la naissance, quand on prend un petit animal sauvage à la naissance et qu'on s'occupe de lui comme on l'a fait d'ailleurs au début du néolithique, on en fait un animal domestique qui est charmant, qui devient l'ami de l'homme. Et il n'y a jamais d'innéité, tout n'est qu'apprentissage.
Apprentissage, comportement social.
Quand vous êtes dans un espace social, c'est-à-dire où l'autre sont là et on vous explique que le contact avec cet environnement fait que vous trouvez là-dedans des choses qui sont agréables. De même qu'il n'y a pas un centre de la propriété dans le cerveau. Il y a un apprentissage, des choses agréables à avoir à sa disposition. Si un autre veut se faire plaisir avec les mêmes objets, les mêmes êtres, ma femme, ma voiture, ma chaîne, ifi, etc., ma, il y a compétition. Et chez les animaux, ça se passe très bien, il n'y a pas de meurtre, un trace spécifique dans la même espèce, les animaux ne se tuent pas, ils se battent. Pour la femelle, ils se battent pour un territoire, mais ils ne se tuent pas. Il n'y a que l'homme qui est le seul à se tuer parce qu'il parle et qu'il va toujours découvrir un discours logique pour expliquer pourquoi il détient la vérité.
Alors, professeur,
et restant toujours dans un sous-ensemble, jamais il ne pense l'espèce. Regardez, actuellement, l'exemple du Koweït, on a focalisé sur un petit détail, un petit pays. Et ça pourrait devenir une guerre mondiale. Alors qu'on n'a jamais, en isolant ce problème d'un problème de tout ce qui l'entourait, non seulement du Proche-Orient, mais finalement de la planète, on arrive à des erreurs de jugement et à la guerre et à la violence, c'est forcé.
Alors, professeur Labouri, vous distinguez trois types d'agressivité. Vous parlez d'agressivité défensive, d'agressivité compétitive, vous venez de le dire, et d'agressivité prédatrice. Mais c'est pareil, d'agressivité...
Non, l'agressivité prédatrice, je le dis d'ailleurs, c'est la lionne qui saute sur une gazelle parce qu'elle a faim. Mais c'est l'équivalent de la ménagère qui va chez le boucher acheter un beefsteak. Elle n'en veut pas au bœuf, la ménagère.
C'est de la survie.
La lionne n'en veut pas à la gazelle. La preuve, c'est que souvent, le soir, quand elle a apaisé sa faim, la lionne laissera venir les gazelles au même point d'eau, voire au même point d'eau. Elle ne leur en veut pas, elle n'a pas de hargne ni de haine contre elle. L'activité prédatrice, peut-être même ce qui est le plus gênant, que c'est sur cette planète, c'est un vaste charnier, et que chaque espèce se nourrit de la mort et de la douleur, de la souffrance, de la chair d'une autre espèce. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, et j'aimerais bien comprendre d'ailleurs pourquoi. Enfin, le gros poisson bouffe le petit, le loup mange l'agneau, etc. Et ça, c'est une des choses qui me semble, à notre sens, de la justice, entre guillemets, humaine, on ne comprend pas. Mais chez l'homme, ce n'est pas du tout pareil. Chez l'homme, il n'y a pas d'agressivité prédatrice, il y a une agressivité prédatrice, si. Il faut bien qu'il se nourrisse.
Oui.
Et il se nourrit avec quoi? Avec d'autres chairs, d'espèces différentes de la sienne.
Chez l'homme, c'est la compétition qui va intervenir.
Chez l'homme, ce n'est que compétitif, l'agressivité. Elle n'est que pour obtenir des objets et des êtres gratifiants. Et quand il ne peut pas le faire, il devient agressif. Alors, tous les niveaux d'organisation se retrouvent. Vous avez une agressivité inter-individuelle, dans la famille, un petit groupe.
Puis vous parlez de la violence, en fait, de la famille, de la cellule familiale.
Alors là, il y a encore, on pourra en parler longuement, de la violence dans la famille. Pourquoi? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout processus vivant, il n'y a pas une cause qui enclenche un effet. Il y a de multiples facteurs qui provoquent de nombreuses réactions, et c'est cet ensemble qu'on juge. La fin du 19e siècle, on croyait qu'il y avait une cause qui provoquait un effet, et actuellement encore, on vit sur cette notion. C'est une catastrophe, parce qu'il n'y a pas... Et dans la cellule familiale, les causes qui peuvent intervenir à l'origine de la violence sont extrêmement nombreuses. Elles sont économiques, elles sont tout l'apprentissage culturel des gens qui constituent cette famille, le père, la mère, les enfants, la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Bref, on ne peut pas traiter un sujet comme l'agressivité en croyant qu'il n'y a qu'un seul facteur. Ce qu'on peut faire, c'est isoler des niveaux d'organisation et essayer de comprendre comment ça se passe dans chaque niveau d'organisation, comme dans le groupe.
L'idéologie, quelle qu'elle soit, va exalter la fatuité individuelle. L'individu appartient alors à la race ou au peuple élu, ou à la race ou au peuple des seigneurs, et même situé au bas de l'échelle sociale dans le groupe auquel il appartient, il se fera une image idéale de lui-même, bien supérieure à celle qu'il aura de celui qui n'appartient pas à ce groupe. Il est prêt à utiliser la violence pour faire admettre à l'extérieur des frontières sa suprématie. Cette violence elle-même devient la preuve indiscutable de sa supériorité raciale. Il est prêt à abandonner, et abandonne même le plus souvent, toutes ses revendications à l'intérieur du groupe pour assouvir son narcissisme individuel au sein de la prétention idéologique du groupe. Il a enfin trouvé l'autre, non dans la vie, mais dans la mort. Les quelques lignes que je viens de vous lire sont extraites de La Colombe assassinée, l'un des livres que le professeur Henri Laborie a consacré à la violence.
Le langage qui a permis à l'homme d'accumuler au cours des siècles ses connaissances, ses expériences du monde dans lequel il vivait, lui a permis d'aller très loin dans la connaissance du monde inanimé, mais il est resté sur du discours dans ce qui était la connaissance de lui-même, la psychologie, la sociologie, l'économie, la politique, les sciences humaines, ne sont que des sciences du discours. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun intérêt. Ça veut dire qu'elles n'ont pas pris en compte les niveaux d'organisation sous-jacents. Oui. C'est-à-dire que pour parler, il faut bien un cerveau. Or, ce cerveau, personne ne s'est occupé jusqu'à... Parce que c'était trop compliqué, d'ailleurs.
Et qu'est-ce que la biologie du comportement nous apporte sur la notion de violence? Qu'est-ce que ça nous permet de découvrir?
La notion de violence, elle est liée à ce qu'on peut appeler des pulsions. Et pulsions, c'est pas comme ça, c'est pas un mot. Elle est liée à une mémoire. L'enfant qui naît, il n'est pas violent, il peut pas être violent, il n'a rien appris. Mais il va apprendre ensuite les choses qui sont agréables, les choses qui sont désagréables. Il voudra conserver pour lui les choses agréables. Et puis on lui dira ce qui est bien, ce qui est mal. On lui dira qu'il faut qu'il soit viril, c'est un petit garçon, qu'il soit courageux, etc. On va en remplir son crâne. De faux problèmes, de mots qui, eux, sur le plan de la neurophysiologie et le plan de la biochimie, ont une corrélation avec des faits, des faits matériels. Bon, on lui apprend très peu à se servir de son imaginaire, c'est-à-dire à prendre la fuite. Quand il se trouve dans un système manichéen où il faut le blanc et le noir, il faut qu'il choisisse, et bien au lieu de choisir, ce qu'il va faire, il pourrait fuir et aller chercher, choisir le gris à côté, ailleurs, trouver autre chose. Mais jamais. Alors, c'est ça ce que la biologie comportementale nous apprend. Elle nous apprend que des mots comme amour, haine, plaisir, joie, motivation, fondamentale ou acquise, si vous avez faim, c'est très inné, ça. Mais si vous avez envie d'avoir une R16, ou 25, c'est appris. Donc c'est un processus de mémoire. Et la mémoire, c'est pas un mot. Nous travaillons depuis longtemps sur la mémoire, mais depuis les dernières années, nous avons fait, je crois, ici, au laboratoire, de progrès intéressants sur les processus de mémoire. Les mémoires, c'est... Et c'est compréhensible, c'est très facile à comprendre. Quand vous rencontrez un microbe, vous savez bien que, en général, si vous attrapez une maladie, comme la typhoïde par exemple, vous ne la rattraperez plus ensuite dans le restant de votre existence. Vous avez donc mémorisé l'existence microbe qui pénètre en vous. Vous la mémorisez en transformant tout un système qui est le système immunitaire et en synthétisant des molécules qui sont des protéines, des anticorps. Tout le monde connaît ça. Bon, quand on vous vaccine, on vous crée justement ces anticorps. Mais dans le cerveau, c'est pareil. Donc la mémoire, vous pouvez empêcher l'apparition de la mémoire, vous pouvez la favoriser. Mais la mémoire, c'est la mémoire. Pensez bien qu'un événement ou une expérience agréable ne passera pas par les mêmes voies nerveuses qu'une expérience désagréable, douloureuse, ou qu'une expérience qui fait que vous ne pouvez pas bouger parce que vous avez peur, vous êtes angoissé, que vous êtes en inhibition de l'action. Ce ne sont pas les mêmes voies nerveuses, ce ne sont pas les mêmes mécanismes biochimiques. Mmh. Et tout ça, c'est très compliqué, mais c'est relativement simple à comprendre. On l'explique à des enfants de 12 à 14 ans, j'ai des amis enseignants, mais ils comprennent parfaitement. Seulement, ils ne sont pas encore engrammés par tous les lieux communs, les automatismes culturels que l'adulte manipule à longueur de journée.
Là, ce sont des préjugés. Vous venez de parler d'inhibition.
Oui, bien sûr, c'est la grande idée.
Oui, les trois quarts du temps, nous refoulons notre agressivité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Mais vous la refoulez parce que vous êtes justement... Vous découvrez l'inhibition de l'action parce que vous savez que votre agressivité, elle peut être punie par l'ensemble social.
Bien sûr, bon.
Ou alors, il faut que vous soyez en groupe. Et que vous défiliez de la Bastille à la place de la République avec des pancartes en cassant la figure aux flics, etc. Ça évite l'ulcère de l'estomac. D'ailleurs,
c'est
ça ne sert à rien.
Qu'est-ce qui se passe aussi dans un conflit, dans une guerre? C'est ça, justement, il y a cette espèce de...
La guerre, c'est encore un autre niveau d'organisation. C'est un niveau d'organisation qui met en jeu les États. Alors ça, les États, c'est affreux. Parce que les États peuvent tuer. Alors ça, les crimes leur sont entièrement permis. Alors que vous, ça ne vous est pas permis. Même la classe sociale, on ne lui permet pas. Mais l'État, ou alors, il faut que la classe sociale fasse une révolution et que les meurtres qu'elle fait à ce moment-là lui permettent d'atteindre la dominance. Et à ce moment-là, d'institutionnaliser les règles nouvelles de la dominance qu'elle a établie. Tandis que les États peuvent tuer, ils ne font que ça. Et ça, c'est normal, à ce moment-là, ils ont un discours logique, regardez-le actuellement. Il y a toujours un discours logique, et Dieu sait s'il y a des discours logiques autour de cette guerre malheureuse actuellement. Il y a des discours logiques, on explique tout partout, et tout le monde détient une vérité. Soit les pacifistes, soit les guerriers, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Vous ne l'avez jamais touché, l'État?
Bien sûr que non, c'est une option abstraite.
Ah oui, c'est un ensemble de relations entre des hommes dans un espace qu'on appelle des frontières. Hexagone. Bon. Mais ces relations, ça ne se touche pas. Or, ces relations s'établissent toujours dans un système hiérarchique de dominance.
De dominance, ouais.
Et finalement, vous allez vous faire casser la gueule pour maintenir. Vous allez vous faire tuer pour maintenir ce système hiérarchique de dominance parce que l'État vous demande de maintenir ce type de rapport. Mais de l'autre côté, il y a aussi un système hiérarchique de dominance qui détient lui aussi la vérité. Et qui va vous tuer, ou vous allez le tuer, pour maintenir un système hiérarchique de dominance. Ce n'est que ça. Dominance économique, surtout, parce qu'actuellement, ce n'est que ça.
Mais l'homme n'a jamais inventé autre chose que ce système de dominance?
Non, depuis le début du néolithique, parce qu'avant, tous les paléontologistes vous disent qu'il n'était pas agressif. D'abord, il avait de l'espace. Les hommes n'étaient pas suffisamment nombreux, on pouvait fuir, on pouvait aller ailleurs. Mais depuis le néolithique et depuis que justement il s'est fixé au sol, c'est-à-dire qu'il a inventé l'agriculture et l'élevage, et qu'il a fait des objets gratifiants, des objets indispensables à sa survie, et qu'il veut conserver pour lui. Mais comme en plus à ce moment-là, et à 6 ou 8 000 ans, il y a eu un bond démographique considérable, parce que la famine n'était plus à craindre, on pouvait rester peinard chez soi, les pieds au coin du feu l'hiver en attendant que l'été revienne. Alors il y a d'autres, ce bond démographique a fait que l'espace dans lequel ces gens vivaient n'a pas été suffisant pour subvenir aux besoins de ces gens, alimentaires en particulier. Alors on a été les prendre à côté, c'est le début des guerres. Le début des guerres peut se juger à peu près 8-10 000 ans, enfin, à partir du moment de la fixation de l'homme au sol.
Est-ce que la connaissance scientifique, professeur Laborie, pourrait changer justement cet état de fait? Et supprimer la violence, par exemple?
La connaissance scientifique, d'abord on ne connaît rien. Bon.
Non, mais on se réfère toujours davantage à des données comme celle de la psychologie, de la sociologie, oui. Peut-être plus qu'à celle de la biologie, par exemple.
Oui, ça, bien sûr. La biologie, elle a commencé il y a 40 ans. Hein. La biologie des comportements, c'est il y a 40 ans.
C'est récent.
C'est récent. Oui. Elle a pu commencer, d'ailleurs, avec la chlorpromazine, en fait. Bon, à partir du moment où on a vu que des molécules chimiques inventées par l'homme pouvaient agir sur le comportement et sur le fonctionnement du système nerveux central. Donc, elle est jeune.
Est-ce que vous mettez un grand espoir justement dans ces
recherches ?
Non,
parce que c'est pas, il n'y a pas d'espoir dans le sens que, si vous voulez, il ne s'agit pas qu'il y ait des scientifiques qui quelques-uns qui comprennent. Il s'agit que la majorité, il y a 5 milliards d'hommes sur cette planète, et qu'on leur donne l'essentiel de ce que la biologie des comportements peut nous avoir apporté. Mais ça s'apprend à l'école. Or, actuellement, à l'école, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend à être un producteur. On vous focalise le plus tôt possible avec le niveau d'abstraction le plus élevé. Il vaut mieux sortir d'une grande que d'une école moyenne ou de la laïque.
On est dans le circuit de la compétition dès l'enfance.
Parce que c'est de la marchandise, parce qu'il faut faire des marchandises. Et pour faire beaucoup de marchandises, il faut des machines. Ces machines sont inventées par des ingénieurs. Et tout est là. Et avec les bureaucrates qui organisent tout ce monde marchand, et finalement on n'apprend rien à l'école. On apprend à devenir ingénieur ou informaticien, et c'est tout. Et regardez, même actuellement, la jeunesse descend dans la rue pour trouver des débouchés, qu'on leur apprenne à avoir un métier. Un métier, c'est vraiment l'automatisme le plus... Même un métier dit intellectuel, c'est des automatismes de pensée, c'est manipuler au lieu de manipuler des poids, manipuler des formules mathématiques ou chimiques ou physiques, c'est tout. Et ça ne veut pas dire qu'on sait plus sur soi-même et sur les rapports qui existent entre les autres. Or, je le répète, les rapports sociaux, ça existe parce qu'il y a des cerveaux humains. Et ce cerveau, on n'en prend pas, on ne l'enseigne même pas. Il faudrait que le monde entier puisse connaître ce que je disais tout à l'heure, que des mots comme désir ou envie, c'est pas pareil, hein, que ça n'avait pas marché les mêmes agences cérébrales, que des mots comme haine, comme souffrance, comme douleur, comme joie, comme tristesse, tout ça, c'est pas des mots. On manipule des mots, et avec ça, on fait des guerres, qui sont toujours des guerres justes. Hein. Ça, alors là, la guerre juste, quand on entend ce mot, on ne peut avoir qu'un sourire. Un sourire attristé, d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous voulez,
Et c'est vrai que le regard bleu du professeur Laborie était attristé. Je voudrais le remercier et vous dire que La Colombe assassinée est édité chez Grasset, ainsi que son dernier livre, La vie antérieure.